Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge des femmes victimes de violences. Et à cette occasion, je reçois le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Panzi de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Docteur Mukwege, juste avant les informations, vous étiez en train de nous parler du PEP. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est. Quand une femme a été victime de viol, l'idée c'est d'essayer d'apporter une protection la plus rapide contre le sida.
En effet, donc nous avions parlé de la prise en charge psychologique qui est la première étape de notre prise en charge. La deuxième étape, c'est la prise en charge médico-chirurgicale. Lorsque la femme et victime du viol, il faut agir vite. On a 72 heures pour pouvoir prévenir la grossesse, prévenir les maladies sexuellement transmissibles et prévenir également les virus du VIH-Sida. Lorsque psychologiquement les agresseurs essayent en fait d'humilier la femme, lui enlever toute sa dignité, la femme finit de sombrer dans la honte. On ne résout pas le problème de la honte en 72 heures. Mais c'est le temps qu'il faut pour que les résultats, par exemple, de la prévention soient efficaces. Et donc, au niveau de l'hôpital, nous avons des kits PEP qui sont des kits de post-exposure prophylaxie, donc des tests de prévention que nous donnons aux victimes en 72 heures lorsqu'elles ont été violées pour prévenir la grossesse et le VIH et les maladies sexuellement transmissibles.
C'est-à-dire, de façon très concrète, pour prévenir la grossesse, vous donnez ce qu'on appelle la pilule du lendemain,
oui,
c'est
exactement,
ça?
Exactement, oui.
C'est le premier point. Et sur le sida, c'est en fait un traitement d'antirétroviraux qu'on prend pendant combien de temps?
Qu'elles prennent pendant un mois.
Et là, on sait que ça empêche le virus du sida.
Effectivement, il y a de bons résultats par rapport à ces traitements et donc ça les empêche tout simplement, mais il faut le faire rapidement, dans les 72 heures.
Dans un pays comme la RDC, ou si je ne me trompe, l'avortement est interdit, cette pilule du lendemain est autorisée?
C'est autorisé pour le moment, nous l'utilisons sans problème.
Ces femmes qui vivent dans les villages, qui sont victimes de viols, savent-elles qu'il existe ce système-là, à la fois de pilule du lendemain, de traitement préventif du sida? Est-ce que ça commence à se savoir?
Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent avec les communautés des bases et ces ONG travaillent pour sensibiliser. Nous avons également un système de soins de santé primaire et souvent beaucoup de messages passent par les comités de développement pour essayer d'informer au maximum les femmes sur les risques et donc la prévention qu'elles peuvent faire.
Donc on a bien compris dans cet hôpital de Panzi, tout d'abord une prise en charge psychologique, cette prise en charge médicale avec ce dont vous venez de parler, pilule du lendemain et traitement préventif contre le sida, ouais. Et après,
en fait, il y a des femmes qui vont venir après 72 heures, et là, ce n'est plus la pilule du lendemain. Nous faisons d'abord des examens pour pouvoir chercher les différentes pathologies qui peuvent être liées à ces viols. Et donc, s'il y a une infection, nous la traitons. Mais souvent, lorsque les femmes sont séronégatives par rapport au VIH, nous leur demandons de revenir 3 mois après pour refaire encore les tests du VIH-Sida. En ce qui concerne les autres pathologies, nous les traitons. Mais le grand problème parfois que nous rencontrons, c'est des fistules. Et il y a 2 types de fistules. Il y a des fistules qu'on appelle des fistules obstétricales, aboutissant à une incontinence urinaire. Et la femme va perdre des urines constamment. Et vous savez, la conséquence, c'est que ça donne des odeurs insupportables. Ou alors, c'est une communication entre le rectum et les vagins. Et donc, les matières fécales passent par le vagin. Ça représente le plus grand nombre, en fait, des fistules vésico-vaginales que nous opérons. Cette conséquence n'est pas directement liée au viol, puisque la grande partie des femmes qui vont avoir donc ces types de fistules, ce sont des filles qui ont été soit violées à l'âge immature, donc 12, 13, 14 ans, et leur bassin n'est pas suffisamment bien développé pour qu'elles puissent accoucher par voie basse et elles n'ont pas dans leur milieu la possibilité d'une prise en charge
d'un accouchement par césarienne.
Mais même si elles n'ont pas été violées, je considère que même les mariages à cet âge, vous verrez dans beaucoup de pays, en Afrique où on marie les filles à l'âge de 12, 13, 14 ans, ce sont des pays qui ont un taux élevé en fait des fistules. Et c'est pour cette raison que je crois que la loi qui vient d'être votée devrait, donc la déclaration devrait vraiment faire, on doit sur le plan coutume pouvoir refuser certaines choses.
Parce que je pense les mariages précoces.
Dans les mariages précoces. Qui,
tout simplement parce que c'est dangereux pour la jeune fille d'être enceinte à cet âge-là.
C'est dangereux pour la jeune fille d'être enceinte à cet âge-là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le prévenir. Et donc, ça c'est une catégorie de fistules, mais il y a des fistules qui sont des fistules gynécologiques, comme on les appelle. Donc, ce sont des fistules qui n'ont rien à voir avec la grossesse. Et ça arrive même à des patientes ou des victimes ménopausées ou chez des enfants.
Donc, et ça, c'est des victimes de viol ?
Des victimes de viol qui vont se retrouver avec la communication entre le vagin et le rectum, ou la vessie et le vagin, tout simplement puisqu'on y a introduit des objets tranchants, des armes à feu, on tire par arme à feu au niveau de l'appareil génital. Tout ça, ça peut déterminer également des fistules, mais ce sont des fistules qu'on appelle des fistules gynécologiques. Elles représentent 3 à 4% dans les séries que nous soignons.
Ça, et c'est là, qu'est-ce que vous arrivez à faire ? Vous arrivez, entre guillemets, à reconstituer, à recoudre ?
Pour les fistules, actuellement, nous sommes à un taux qui est très satisfaisant, au-delà de 90%. Mais là aussi, je vais dire une chose, je ne suis jamais satisfait par les chiffres. Puisque lorsque nous parlons de 90%, tout le monde peut se dire, waouh, c'est bon.
Mais il y a 10% de femmes.
Mais il y a 10% des femmes qui vont rester handicapées toute la vie. Et vous imaginez, lorsque vous avez soigné des milliers de femmes, donc ça fait quand même des centaines, voire milliers de femmes qui vont rester handicapées à vie. Et lorsqu'une femme perd les urines ou perd les matières fécales constamment, eh ben, c'est une raison d'une exclusion sociale. Et malheureusement, ces femmes n'ont pas de vie après.
Aujourd'hui, à Panzi, vous êtes combien de médecins et combien qui peuvent opérer justement ces fistules ?
À Panzi, aujourd'hui, nous avons 33 médecins. Et dans l'équipe qui peut opérer des fistules, nous sommes à 7.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité santé sur RFI, je reçois le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Panzi de Bukavu, dans l'est de la RDC. Il y a une chose qu'on n'a pas dite depuis le début, c'est horrible ce que vous racontez sur les viols, mais vous êtes dans un des endroits les plus beaux au monde, les bords du lac Kivu.
Je pense que cette région, elle est magnifique. Et ça serait un lieu où on pouvait non seulement se détendre, mais prendre le temps pour réfléchir. Malheureusement, en fait, c'est une zone aussi où la violence empêche de pouvoir jouir de cette beauté.
Est-ce que vous avez l'impression que, je dirais, la société a complètement perdu la boussole avec ces viols, que l'impunité a fait que l'horreur va en grandissant?
C'est désolant de constater que les viols vont en grandissant, et je pense que lorsqu'on laisse l'impunité se développer comme un mode de gouvernance, malheureusement, en fait, ça ne peut que faire appel à plus d'horreur. Vous savez, dans la région, je me suis toujours inscrit à faux par rapport au système où on veut que les gens créent des rébellions. Dans ces rébellions, ils font des horreurs. Lorsqu'ils font des horreurs, c'est une occasion pour qu'on les appelle à une table des négociations, puisqu'ils ont fait tellement du mal et que finalement, il faut parler avec eux. Et les résultats donc de ces négociations aboutissent à ce qu'ils sont primés, ils deviennent des généraux ou des ministres. Et je pense que si on doit continuer comme ça dans cette région, c'est un cercle qui n'aura pas de fin.
Les hommes se disent qu'ils peuvent faire ça en toute impunité.
En toute impunité. Et moi, je crois que les communautés locales devraient dénoncer et soutenir les femmes. Je crois que pour les gouvernants, ils doivent appliquer la loi dans toute sa rigueur. Je crois que la communauté internationale doit cesser de rester indifférente par rapport à ces drames-là.
À Panzi, on l'a bien compris, hein, vous soignez physiquement, psychologiquement, mais vous essayez aussi, justement, d'aller devant les tribunaux avec ces femmes pour que les coupables soient condamnés. Est-ce que ça avance un peu, ça ?
En fait, c'est la dernière étape de notre démarche, puisque entre les deux, il y a la prise en charge socio-économique. Puisque lorsque la femme, psychologiquement, vous l'avez aidée à retrouver sa dignité, lorsqu'elle considère que c'est une femme et qu'elle doit se battre pour le droit de ses enfants, pour que ses enfants aient à l'école, pour que ses enfants aient à manger, pour que ses enfants aient un toit. Souvent, la question qui vient après, c'est comment je peux faire pour répondre à tous mes besoins. Et là, l'hôpital de Panzi ne laisse pas les femmes dans la rue. Nous avons des programmes, plusieurs programmes de prise en charge socio-économique. Et ce que nous avions observé, ces femmes sont courageuses. Elles font du travail inimaginable, puisque moi, j'ai toujours eu des larmes aux yeux de voir une femme à qui on donne un microcrédit.
Donc, il faut qu'elle rembourse.
Qu'elle rembourse 20-30 $, mais qu'après, cette femme puisse vous dire que je me suis construit une maison, maintenant mes enfants vont à l'école, ils mangent deux fois par jour, et donc moi j'ai toujours trouvé ça comme un miracle féminin. C'est vraiment, il n'y a que des femmes qui peuvent opérer des choses comme ça. Et donc nous avons aussi un programme de remettre, par exemple, toutes les jeunes filles qui peuvent encore aller à l'école, nous les aidons à pouvoir continuer leurs études, et aujourd'hui nous avons des filles qui ont pu même faire l'université après avoir été violée et abandonnée par tout le monde. Donc je crois que la troisième étape, souvent, je suis guéri physiquement, psychologiquement, je me sens mieux, mais je ne veux plus rester dans la rue. Je veux que vous m'aidiez à pouvoir devenir une femme autonome. Et donc nous avons un programme de prise en charge socio-économique. Et en fait, le troisième programme... dernière étape, lorsqu'une femme guérit, psychologiquement, elle va bien. Économiquement, elle se rend compte que finalement, dans la société, elle a aussi un mot à dire. La question qui arrive après, c'est « Celui qui m'a violé, je le connais. Je connais mon agresseur. Pourquoi il est en liberté ? Je le vois, je le croise encore. » Et souvent, les femmes reviennent chez nous pour dire « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» à amener cette personne en justice. Et là, nous avons des juristes, nous avons des avocats qui accompagnent les femmes devant les cours et tribunaux.
Et alors, est-ce que vous avez réussi à ce que ces hommes soient condamnés ? Parce que beaucoup sont justement des soldats, des rebelles.
Exactement. Il y a une catégorie que nous arrivons à mettre la main dessus et nous arrivons à obtenir des jugements. Nous avons déjà eu presque 150 jugements. Nous avons 600 dossiers fixés au niveau de la justice. La seule chose qui marche moins bien, c'est la réparation. Puisque, en fait, je crois que ces femmes devraient avoir dédommagement intérêt par rapport à ce qu'elles ont subi. Et là, malheureusement, même lorsque l'État est condamné une solidum avec les agresseurs...
Qui sont des soldats, dans ces cas-là, de l'armée, c'est ça, hein ?
Lorsqu'ils sont des soldats de l'armée, normalement, le gouvernement devrait dédommager les victimes, puisque ces soldats ont commis ces actes en étant au service donc du gouvernement. Ça, c'est une catégorie, c'est un problème que nous rencontrons. Mais le deuxième problème que nous rencontrons, c'est par rapport, en fait, à tous les agresseurs étrangers qui commettent ces viols sur les territoires congolais et qui, après, ont la protection des pays voisins. C'est une question qui devrait être prise en compte, puisque je crois que sur le plan régional, on devrait avoir quand même un système qui permet à ce qu'un criminel doit être appelé par son nom et doit être poursuivi partout où il peut aller.
Docteur Mukwege, quand vous dites ça, vous accusez qui ? Et est-ce que je vous mets dans l'embarras si je vous demande des précisions ?
Je n'accuse personne. C'est une vérité qui est connue par tous. Je pense que le moindre, c'est dire c'est un mal qui nous concerne tous dans la région. Parce que je pense que s'aimer la haine, s'aimer la violence, on ne peut récolter que la violence après. Mais je pense que si dans toute la région, donc la sous-région, on peut comprendre que en combattant ces mâles, on les combat pour les générations à venir, pour que ces générations apprennent à vivre pacifiquement, apprennent à vivre en respectant la femme, apprennent à vivre, à connaître que ce qui s'était passé, c'était un drame et il ne faut plus y revenir. Je crois que ça doit se faire dans une coopération régionale. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Docteur Mukwege, on le sait bien, vous dérangez dans vos propos, vous dérangez au point que vous avez été victime d'un attentat récemment, au mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez un peu qui est derrière cet attentat? C'était vous et votre famille, d'ailleurs.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, j'attends toujours savoir qui était derrière. La police avait montré à la presse des suspects qui auraient été à l'origine de cet attentat ou qui ont perpétré cet attentat. Mais j'attends un peu plus de précision pour savoir, ils travaillent pour le compte de qui. Il faudrait que
j'ai une. Vous dérangez précise. Dans ce que vous dites, c'est ça en fait? Vous dérangez en accusant ces groupes armés de violer?
Je n'accuse personne. Je constate et je dis ce que je vois.
Vous avez, juste après cet attentat, du coup, quitté la RDC pour vous protéger. Vous avez décidé de revenir. Vous vivez comment? Vous avez peur? Votre famille a peur?
Je peux pas vous dire que j'ai pas peur dans la mesure où je ne vis plus chez moi. Je vis à l'hôpital, donc je vis à côté de mes malades. C'est un choix qui est difficile pour moi et pour ma famille. Mais c'était la seule façon de continuer à être utile pour ces milliers de femmes qui fréquentent l'hôpital chaque année.
Pour vous, c'était inenvisageable de rester en Europe quand il y a autant de femmes qui souffrent dans votre pays, c'est ça?
Vous savez, à l'origine de mon départ, peut-être il y a un fait qui a été crucial, qui m'a décidé en fait de partir, c'est que j'ai eu des lettres des femmes dans des différents villages qui ont réclamé, qui ont écrit à toutes les autorités, tant nationales qu'internationales, pour réclamer mon retour. Mais quand elles n'avaient pas eu de réponse, elles ont pris l'initiative de commencer à vendre les produits de champs, donc des ananas, des tomates,
pour
me payer les billets. Alors que ces femmes vivent avec moins d'un dollar par jour. Ce sont des femmes qui ont eu peut-être des microcrédits de 20 dollars. J'avais trouvé ça fabuleux. Je ne savais pas résister à une telle démarche. Et donc, j'ai cédé à leur démarche. Et donc, je suis retourné. Et aujourd'hui, je suis à leur service à l'hôpital.
Si vous le voulez bien, on va terminer cette émission avec le docteur Catherine Solano. Vous savez, elle est sexologue. Catherine intervient régulièrement, toutes les semaines, dans cette émission pour donner des bons conseils. Docteur Solano, bonjour. Vous êtes exceptionnellement au téléphone. Vous avez régulièrement en consultation des femmes qui ont été violées. Et on avait envie, du coup, de vous faire dialoguer justement avec le docteur Mukwege. D'abord, quels sont les problèmes de ces femmes?
Souvent, ces femmes, par la suite, ont très peur de la sexualité. Elles ont parfois tendance à éviter les hommes ou elles n'arrivent pas du tout à avoir de relations sexuelles. Et quand certaines ont des relations sexuelles, souvent elles se disent toutes crispées et sans désir. Et puis il y en a aussi beaucoup qui ressentent beaucoup de douleurs sexuelles quand elles ont des relations sexuelles.
Toutes les femmes réagissent ainsi?
Non, parce que c'est vraiment très très personnel, chaque cas est particulier. Il y a des femmes qui ont été violées et qui au contraire vont développer une hypersexualité, c'est-à-dire il y a des femmes qui après un viol ont tendance à avoir beaucoup de partenaires sexuels, parfois n'importe comment, n'importe où, et de multiplier les partenaires parce que ça leur donne le sentiment de se soigner. C'est comme si elles avaient l'impression de prendre le contrôle sur les hommes en se prostituant, par exemple. Et on sait qu'il y a beaucoup de prostituées qui sont arrivées à la prostitution en partie parce qu'elles ont subi des viols et que le fait de se faire payer par des hommes peut leur donner l'impression de dominer les hommes et du coup de réparer le viol. Donc des fois, il y a une hyposexualité, des fois une hypersexualité.
Est-ce qu'il y a des femmes qui ont une sexualité entre guillemets normale après un viol?
Oui, ça arrive et c'est très important de le dire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent d'un air horrifié, de toute façon, on ne peut jamais s'en remettre après un viol. Et c'est tout à fait faux. Il y a des personnes qui se sont fait violer et qui ont une sexualité normale après. Soit parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de ressources personnelles pour s'en sortir. Souvent aussi parce qu'elles ont un entourage qui les a beaucoup soutenues, beaucoup aidées. Soit aussi parce qu'elles ont un partenaire qui a été vraiment très aidant. Mais même avec ça, on s'en sort pas forcément facilement. Mais ça arrive quand même, heureusement.
Comment faire justement pour se remettre le mieux possible après un viol ?
Alors déjà, ce que je disais, ce qui est important, c'est d'être soutenue. Parce que je vois beaucoup de femmes, moi, ici en France, qui ont été violées et qui me disent « Eh ben, mes parents m'ont dit, tu vas pas faire une histoire avec ça. » Ou « On va pas se fâcher avec ton violeur. On va pas en faire une histoire non plus. » Et je rappelle que le devoir des parents, c'est de protéger leurs enfants. Et que s'il leur arrive quelque chose, de les défendre et de les soutenir. Et c'est pareil pour un mari envers sa femme ou un frère envers sa sœur. Je trouve qu'il se produit souvent, même ici en France, hein, qu'on accuse la femme d'avoir été où il fallait pas qu'elle soit, ou d'avoir mis une jupe trop courte, ou de s'être maquillée. Et comme je lisais dernièrement ce que disait quelqu'un sur Internet que j'ai trouvé très sage, il disait même si une femme était toute nue dans la rue, eh ben ça serait pas une raison pour la violer. Et les hommes sont pas des animaux, ils doivent savoir que les femmes sont jamais des objets.
Il y a beaucoup d'éducation à faire.
Oui, c'est ce que vous dit, votre invité disait tout à l'heure. Je trouve qu'une des missions importantes qu'on a sur Terre, tous, c'est d'apprendre aux garçons de respecter les femmes. Et quand je dis une mission, c'est qu'en tant que parent, c'est le devoir de tous les parents. Et c'est très, très important, pas seulement pour les femmes. Parce qu'on sait que les pays où les femmes sont les plus respectées, c'est et où elles ont le plus de droits, le plus d'égalité, ben c'est aussi les pays où les hommes se disent le plus heureux. Donc c'est aussi important pour le bonheur des hommes.
Alors si une femme a subi un viol, comment son partenaire doit-il réagir ensuite pour l'aider à dépasser ce moment ?
Alors, son partenaire doit comprendre que le sexe de cette femme-là a souffert, qu'il a été agressé et que maintenant, il a peur. Et donc, c'est exactement comme si vous prenez un animal sauvage qui aurait été blessé par un humain ou par un piège. Quand il sent l'odeur de l'humain, il a peur et il s'enfuit. Et si vous voulez l'apprivoiser, ben, ça sera beaucoup plus difficile que s'il n'avait jamais été blessé. Donc, quand un homme a une partenaire qui a subi un viol, son sexe a peur et il faut qu'il apprenne à l'apprivoiser. Donc, il faut qu'il commence à le toucher, à le caresser très, très progressivement, très lentement et surtout s'arrêter dès qu'elle a mal ou qu'elle n'est pas bien. Et ça peut prendre des jours, des semaines ou des mois pour réussir à apprivoiser ce sexe qui a souffert.
Et les femmes, que peuvent-elles faire ?
Eh bien, pour les femmes, souvent, je leur demande de faire un espèce d'exercice. C'est-à-dire que, alors là, je vous dis en résumé pour donner des conseils pratiques, hein, parce que c'est souvent quand même un petit peu plus long, mais souvent, je leur demande, avant un moment intime sexuel, de parler à leur sexe, dans leur tête, et de lui dire à leur sexe, tu as été agressé, et ça t'a fait mal. Et maintenant, je sais que tu as peur, je sens que tu as peur. Mais tu vois, là, je vais me rapprocher d'un homme que j'aime, en qui j'ai confiance. Et je te demande de lui faire confiance, de lui donner sa chance, de faire tout ton possible pour l'accueillir. Et je te promets que si à un moment tu as trop peur ou trop mal, tu me fais signe et je vais lui demander de tout arrêter. Et il va arrêter parce qu'il te respecte. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est que quand on a un blocage à cause d'une agression sexuelle ou d'un viol, il faut pas ajouter une agression supplémentaire en forçant le sexe, parce qu'autrement, il va se bloquer encore plus. Donc, il faut toujours de la douceur.
Et docteur Catherine Solano, juste pour terminer, vous dites aussi qu'il faut un spécialiste et essayer de consulter pour une thérapie.
Voilà, donc on peut parfois s'en sortir seul, il faut essayer, de toute façon ça vaut toujours la peine, mais quand c'est possible, consulter quelqu'un qui peut vous aider en psychothérapie, c'est vraiment très intéressant. Moi par exemple j'utilise l'hypnose, le MDR qui est une thérapie pour travailler sur les traumatismes, ou l'intégration du cycle de vie qui est aussi une autre méthode pour traiter les traumatismes en douceur, et on a maintenant des méthodes qui aident à s'en sortir très très bien.
Docteur Mukwege, une réaction par rapport à cette chronique du docteur Catherine Solano, est-ce que vous abordez cette cette question de la reprise de la sexualité à l'hôpital Panzi?
En fait, à l'hôpital Panzi, nous avons une équipe, on n'a pas de sexologue, mais on a une équipe de médiation familiale. Et cette équipe de médiation familiale, en fait, trouve le même problème que Catherine vient d'évoquer tout à l'heure. Et je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié, pour qu'une femme redevienne vraiment, que sa vie soit normale après avoir subi un viol, il faut qu'elle ait des capacités internes et une énergie énorme personnelle. Et je pense aussi, elle a parlé du soutien. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait un soutien non seulement familial, communautaire, pour que la femme puisse pouvoir s'en sortir. Il y a une chose sur laquelle je voulais réagir. Elle a dit là où il n'y a plus d'égalité, là où il n'y a plus de respect des femmes, c'est là où les hommes sont le plus heureux. Et je crois que vraiment c'est très bien dit. En fait, le bonheur des hommes dépend en fait de l'épanouissement des femmes. Et là, je peux très bien le voir. Beaucoup de femmes qui sont venues nous voir pour dire « J'ai été rejetée par mon mari, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour m'aider ?» Nos équipes travaillent sur ça et on arrive souvent à ce que le couple puisse accepter de vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'on constate ? C'est que l'homme qui donnait l'impression d'être fort, d'être capable, en fait, ils sont également traumatisés. Lorsqu'il a vu sa femme violée en sa présence et qu'il n'a pas pu la protéger, lorsqu'il a vu ses filles violées en sa présence et qu'il n'a pas pu les protéger, la plupart du fois, c'est la femme qui revient pour nous dire « Le monsieur, il a accepté que nous retournions ensemble, mais en fait, il est incapable d'avoir des rapports sexuels. » Tellement il est traumatisé. Mais lorsque j'ai commencé à appeler les hommes pour discuter avec eux, pourquoi vous aviez accepté, finalement, vous ne faites pas vos engagements par rapport à votre épouse. Eh bien, malheureusement, beaucoup d'hommes me disaient, « Docteur, depuis 7 ans, je suis devenu impuissant, puisque tout simplement, lorsque j'essaye de recommencer les rapports sexuels, ce qui m'arrive en tête, c'est ce que j'avais vu, et quand ça me vient en tête, je peux plus avoir des rapports sexuels. Est-ce que vous pouvez m'aider ? » Donc je pense qu'en fait, notre bonheur dépend beaucoup plus du bien-être et de l'épanouissement des femmes.
Merci beaucoup, docteur Mukwege. J'ai été vraiment très heureuse de vous recevoir dans Priorité Santé. Bon courage pour ce que vous faites. J'espère venir vous voir prochainement. Bouc à vous.
Je vous en prie, madame. Merci.